à Paris lors de retrouver Anne Verdaguer pour le journal des Amériques et d'Haïti. Bonjour Anne.
Bonjour Joanne, bonjour à tous. La pandémie de coronavirus, plus que jamais active en Amérique latine, qui devient la région la plus touchée au monde avec les Caraïbes. On vous parlera de cette plainte de soignants contre le président brésilien Jair Bolsonaro et du port du masque aux États-Unis qui fait débat. On ira en Haïti pour parler de cette manifestation hier de plusieurs milliers de personnes à Port-au-Prince à l'appel des églises protestantes pour protester justement contre le nouveau code pénal. Et puis dans le journal de l'Outre-mer, en Guyane, l'épidémie de coronavirus semble marquer le pas. On va donc aux États-Unis où le coronavirus continue sa progression dans la majorité des États, en particulier ceux du Sud et républicains pour la plupart. Sur place, le port du masque est devenu l'enjeu d'une bataille idéologique initiée par le discours du président américain jusque la semaine dernière. Donald Trump refusait en effet de le porter avant de faire marche arrière et de s'afficher en public, masque sur le visage. Notre envoyé spécial s'est rendu en Arizona, l'un des États les plus frappés par la pandémie, où le gouverneur républicain refuse d'imposer le masque, comme le demande pourtant depuis des semaines la maire de Phoenix et certaines familles de victimes en vertu de la Constitution américaine. Reportage d'Éric Desalves.
Elle a fait des obsèques de son père emporté par le coronavirus à 65 ans, une tribune pour interpeller les autorités américaines. Ce jour-là, devant le cercueil paternel, envahi par la tristesse et la colère, Christine Urquiza avait invité tous les médias locaux et même Doug Ducey, fidèle de Donald Trump et gouverneur de l'Arizona, où le COVID-19 est hors de contrôle.
Ses décisions, sa gestion épouvantable de la crise ont un impact sur la vie des gens. C'est pour ça que je l'ai invité à l'enterrement, pour l'aider à comprendre à quel point sa politique plonge les habitants de son État dans la tristesse.
L'Arizona, encouragé par Donald Trump, a été l'un des premiers États américains à lever le confinement. Début mai, le gouverneur est allé jusqu'à inciter la population à reprendre une vie normale, sans masque. Le père de Christine, ouvrier d'origine mexicaine, a suivi ses conseils. Habitant d'un quartier latino de Phoenix, parmi les plus touchés par le coronavirus, il est tombé malade 2 semaines après.
Mon père a cru que ce n'était plus dangereux de sortir, de retourner au restaurant, de recommencer à avoir des amis. Parce que quand le confinement a été levé, les autorités disaient que c'était sûr. Donc je crois que le gouverneur a du sang sur les mains. S'il avait écouté la science et les épidémiologistes, nous serions dans une situation totalement différente.
Depuis la mort de son père, Christine implore son gouverneur d'imposer le port du masque en vain. Car en Arizona, le masque est devenu un enjeu politique, en particulier pour les partisans de Donald Trump. Pour le comprendre, nous prenons la direction de Florence, à 2 heures de route de Phoenix, pour rencontrer le shérif de cette petite ville connue pour sa prison, posée au milieu d'un désert de cactus. Le shérif Lamb ne quitte jamais son chapeau de cow-boy ni ses armes à feu. Il refuse en revanche catégoriquement de porter un masque.
Je ne porte pas de masque et ce n'est pas au gouvernement de nous dire de porter un masque.
En avril, shérif Lamb a fait la une des médias américains après avoir clamé haut et fort son refus de faire appliquer le confinement. Une obligation contraire, selon lui, à la Constitution américaine.
J'ai décidé de ne pas l'appliquer en ne mettant pas de PV, pas d'amende, personne en prison. Pour moi, cet ordre de confinement violait nos droits constitutionnels. On est très vigilants sur notre liberté. Ici, on aime la liberté. Moi, je suis un chien de garde de cette liberté. Et je n'aime pas trop ça quand je commence à sentir que le gouvernement dépasse ses limites.
Fort de ses positions, cet ardent défenseur de Donald Trump a fini par être invité à la Maison Blanche. Mais une fois arrivé à Washington, ironie de l'histoire, le shérif Lamb découvre qu'il a lui-même contracté le Covid-19. Car avant de rencontrer le président, il est contrôlé par les services de sécurité et son test coronavirus est positif.
J'ai dit non, c'est une blague. Et ils m'ont dit non, votre test est bien positif, je n'en revenais pas. J'étais sur le point de rencontrer le président et tout tombe à l'eau.
Lui aussi, en campagne pour sa réélection, shérif Lamb avait organisé, comme Donald Trump, un meeting électoral sans masque ni distanciation sociale en pleine pandémie. C'est là qu'il a contracté le virus. Pourtant, la maladie n'a en rien changé ses positions.
Non, mon discours est le même qu'avant. On fait du mal à notre économie comme jamais auparavant dans ce pays. On doit se remettre à vivre. Et oui, il va y avoir des morts tragiques. C'est nul, mais la mort fait partie de la vie et il va falloir s'y faire.
À 3 mois de la présidentielle, Donald Trump, en décrochage dans les sondages, a quant à lui changé de ton et finit par appeler les Américains à porter un masque pour la première fois après 140 000 morts du coronavirus aux États-Unis. Éric De Salve, Phoenix, RFI.
La revue de presse des Amériques avec vous, Arim Lipol, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On prend tout de suite la direction de New York où la crise du Covid-19 a transformé littéralement le centre de Manhattan en ville fantôme.
Oui, c'est à lire dans un reportage très intéressant du New York Times. Le journaliste s'est rendu au siège des éditions Time and Life, une tour qui autrefois, avant la crise, donc abritait non seulement les locaux du célèbre Time Magazine, mais aussi des boutiques de luxe et des restaurants chics. L'immeuble a été rénové il y a quelques années, raconte-t-il, pour accueillir 8 000 employés. Aujourd'hui, à peine 500 se rendent sur site. Le restaurant spécialisé en entrecôte, le fameux steakhouse à l'intérieur de l'immeuble, a fermé. Un camion restaurant installé devant la tour ne vend plus qu'une dizaine de hot dogs par jour.
Voilà, et entrer dans l'immeuble, c'est comme aller à l'hôpital, écrit le reporter du New York Times, Arim.
Oui, ce qui se passe autour des éditions Time est symbolique de la crise économique qui frappe le cœur autrefois bouillonnant de vie de ce quartier de Manhattan. Anne, ce quartier commercial, écrit le journaliste, a été construit pour permettre à un grand nombre de gens de se rencontrer, d'échanger, faire du business. Avec la crise du coronavirus, eh bien, cet objectif ne peut plus être réalisé. La situation à Manhattan donne aussi un aperçu de ce qui pourrait arriver à des quartiers commerciaux dans d'autres grandes villes du pays, selon le New York Times.
Autre sujet à lire dans la presse, Arim, les Afro-Américains se ruent sur les armes à feu.
Oui, c'est aussi une conséquence du coronavirus, explique le journal en ligne Politico, qui a enquêté sur ce phénomène avec le confinement. Un sentiment d'insécurité s'est emparé de cette communauté, explique le président d'une association afro-américaine de détenteurs d'armes. La peur d'une pénurie alimentaire, d'une crise économique de grande envergure, la méfiance aussi à l'égard de la police, la volonté d'être en capacité de se défendre au cas où, eh bien, tous ces éléments expliquent pourquoi les associations afro-américaines d'armes à feu croulent sous les demandes d'adhésion. Pour beaucoup de Noirs, la mort violente de George Floyd est devenue aussi une raison de se procurer une arme, écrit le site d'information Politico.
Et certains ont décidé de participer aux manifestations Black Lives Matter en portant des armes semi-automatiques.
Et ces images ont été exploitées par des responsables républicains qui s'en servent pour justifier leur demande de restauration de l'ordre musclé, manifesté, armé et pourtant un droit constitutionnel pour tous les citoyens américains.
Arim, l'Amérique latine et les Caraïbes, je le disais, sont désormais la région la plus touchée par la pandémie de coronavirus avec le plus grand nombre de contaminations, soit un peu plus de 4 340 000 cas. Et c'est le Brésil qui est en tête de ces contaminations. On a recensé hier au Brésil près de 25 000 cas supplémentaires en une seule journée. Sur place, des soignants ont décidé de porter plainte contre le président Jair Bolsonaro pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale de La Haye pour sa gestion chaotique de la pandémie qui a fait plus de 86 000 victimes au Brésil. À Rio, Sara Cozzolino.
Jair Bolsonaro continue de nier la gravité de la pandémie. C'est ce que dénonce un réseau de syndicats de soignants devant la Cour pénale internationale. Marcio Manzani est le secrétaire régional des professionnels de santé Uni Americas, une des entités qui a déposé la plainte.
Le président Bolsonaro fait une campagne permanente contre les mesures d'isolement social, de protection, de soutien aux groupes les plus vulnérables. Il a essayé plus d'une fois d'empêcher la mise en œuvre des aides d'urgence apportées aux travailleurs qui ont perdu leur emploi.
Le texte souligne que depuis 4 mois, Jair Bolsonaro défend la reprise des activités, s'adonne régulièrement à des bains de foule et fait la promotion de la chloroquine, le tout au mépris des avis des scientifiques. À travers la plainte, les soignants espèrent aussi attirer l'attention sur leur situation.
Nous comptons déjà plus de 500 morts parmi les professionnels de santé à cause du coronavirus. C'est un chiffre assez élevé et effrayant. Et ils ont des demandes très claires, des équipements de protection et des
Enfin, les auteurs de la plainte rappellent qu'après la démission de 2 ministres de la Santé, ce sont désormais des militaires qui occupent les principaux postes du ministère sans avoir d'expérience dans le domaine de la santé. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Au Brésil, toujours à Rime, le coronavirus menace l'existence de beaucoup d'artistes.
Oui, c'est le cas d'un petit cirque familial itinérant, le cirque fantastique, Circo Fantastico, qui depuis 15 ans sillonnait le nord-est du Brésil, et à cause du coronavirus, eh bien tous les spectacles ont dû être annulés, la troupe s'est séparée, certains sont retournés dans leur famille pour pouvoir se nourrir et se loger, et le noyau dur du cirque, 15 personnes, s'est installé dans un campement de fortune, sans ressources, et vivent de ce que les riverains leur apportent en nourriture et en eau potable. Cette histoire est à lire dans le journal en ligne Intercept, qui a rencontré la patronne du cirque, Donna Sida. J'adore le cirque, c'est toute ma vie, je suis tellement triste, ce qui nous arrive, explique-t-elle aux journalistes. Personne ne nous aide à l'exception de Dieu et des gens. Alors, est-ce que le cirque va survivre à cette crise? Eh bien, Donna Sida ne le sait pas, mais une chose est sûre, Anne, avant de lever le camp, peut-être un jour, eh bien, elle donnera un spectacle gratuit, dit-elle, pour tous les habitants, pour les remercier de leurs aides et de leur accueil.
Voilà, et pour finir sur cette crise du coronavirus en Amérique latine, j'ajoute que au Venezuela, le président Nicolas Maduro a prolongé les mesures de confinement à Caracas et dans 6 États vénézuéliens, sans dire jusqu'à quand ces mesures seront en vigueur. Merci Arim Lipold pour cette revue de presse des Amériques.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et direction Haïti à présent, où plusieurs milliers de fidèles religieux ont participé à une marche ce dimanche à Port-au-Prince, organisée par les églises protestantes pour dénoncer le nouveau code pénal qu'ils considèrent comme immoral, en cause la pénalisation des discriminations basées sur l'orientation sexuelle, mal comprise ou sciemment détournée de son sens par des pasteurs qui se méprennent aussi sur les articles qui pénalisent l'inceste ou encore la zoophilie. Sur l'un des principaux axes de la capitale haïtienne, l'ambiance avait des airs de carnaval, mais les discours, eux, avaient un ton bien plus radical. Amélie Baron, notre correspondante à Port-au-Prince, était sur place.
L'Église a parlé. Non à l'immoralité, vive la famille. À lire les slogans figurant sur les t-shirts portés par quantité de manifestants, c'est une guerre des valeurs qui est en cours et les protestants sont déterminés à lutter pour leurs convictions. Cadet Elinor parle, lui, de coutume, tout en faisant une interprétation erronée des articles du Code pénal, car le texte ne légalise pas le mariage homosexuel ni la zoophilie.
En Haïti, c'est pas coutume, non?
En Haïti, ce n'est pas notre coutume que deux hommes se marient, que deux femmes se marient, qu'un humain se marie à un animal. Nous sommes des descendants d'Afrique. Ces coutumes ne sont pas des coutumes africaines. Elles viennent d'Europe ou d'autres pays. Nous, en Haïti, on ne veut pas de ça. Et on demande au président Jovenel de retirer ce truc parce qu'on ne veut pas en Haïti de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre.
Ça s'est passé à Sodome et Gomorre, nous pas prêts pour le passer en Haïti.
Interrogé sur le sort des citoyens haïtiens homosexuels, le pasteur baptiste se déclare tolérant.
Oui, il y a des gens qui sont homosexuels en Haïti. On ne les empêche pas. Ils ont droit de mener leurs affaires comme ils veulent. Seulement, ils auront à voir cela avec le bon Dieu, personnellement.
Si les membres du clergé ont tenu des propos plus ou moins respectueux à l'égard de la communauté LGBT, leurs fidèles étaient eux nombreux à ouvertement multiplier propos et insultes homophobes, comme cette femme, la quarantaine, qui a refusé de donner son identité et dit s'appeler « servante du bon Dieu ».
Je suis venue marcher pour mes enfants et petits-enfants, pour ma famille, afin que cette saleté-là ne nous suive pas, car c'est elle qui a fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Nous, les chrétiens, nous sommes venus dire non, nous n'accepterons pas cela. Ni deux femmes ensemble, ni deux hommes ensemble. Nous n'acceptons pas toute cette saleté. Oui, il y a des homosexuels dans le pays. On n'a pas de problème à ce qu'ils soient là, mais on ne doit pas leur donner des papiers. Ils sont supposés rester sous la table où ils sont. Ils ne doivent pas le revendiquer. Non, ils n'ont pas le droit. Ce sont des saletés. Oui, de la saleté.
C'est saleté. À côté, son ami vient renforcer ses propos au cas où la dizaine de personnes qui se sont approchées n'auraient pas saisi le sens de leur discours homophobe.
Qu'il reste sous la table parce que la saleté ne s'élève jamais dans les airs. Quand vous avez un déchet, où le mettez-vous? Sur la table? Dans le salon? Non, à la poubelle. Vous le mettez à un endroit bien loin afin qu'un invité qui arriverait ne voit pas la saleté.
Contre le droit des homosexuels à ne plus subir de discrimination, la marche est aussi devenue une marche contre le président Jovenel Moïse et son camp politique. Sans donner son nom, une femme fluette et plutôt âgée laisse exploser sa colère contre le chef de l'État, son parti, le PHTK, et aussi contre la diplomatie américaine dans le pays.
On est venu dire à Jovenel qu'on est fatigué, on n'en peut plus. Depuis que le PHTK a pris le pouvoir, Haïti est devenu un enfer pour ses propres enfants. C'est une pénitence sans rien de sacré. Tout le monde est à genoux. Personne ne peut se relever. On a la faim au derrière, la misère au derrière. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Si vous êtes malade, il n'y a pas d'hôpital parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer les frais d'une consultation dans le privé. Ils ont profité du coronavirus pour encore se sucrer sur le dos du peuple. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on meure. Et on envoie un message clair à l'ambassade américaine. Madame de l'ambassade américaine, vous y êtes pour beaucoup dans la souffrance d'Haïti.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Actualité des Outre-mer à présent avec le journal de l'Outre-mer présenté par Odane Agiali. Bonjour Odane. Odane, êtes-vous là? Je ne vous entends pas.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous.
On vous a retrouvé à la une aujourd'hui. L'épidémie de coronavirus semble marquer le pas en Guyane.
Oui, c'est en tout cas ce qui ressort du dernier point épidémiologique de l'Agence régionale de santé du département. Et ce sont des chiffres plutôt encourageants, Céline Fleuzin.
Le pic de l'épidémie observé début juillet est derrière nous. Cyril Rousseau le confirme lors de ce point épidémiologique.
On voit une stabilisation des nouveaux cas confirmés chaque semaine. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a un recul, un pic qui a été atteint début juillet en Guyane.
Tantôt l'Ouest compte le plus de cas déclarés positifs au coronavirus. Tantôt c'est le littoral qui en dénombre le plus. Mais alors, comment circule le virus sur notre territoire?
On observe d'habitude, et pour la dengue notamment, ce décalage dans le temps. C'est-à-dire que l'épidémie ne va pas se mettre à circuler avec la même intensité au même moment dans tous les territoires. C'est très différent de ce qu'il se passerait dans une grande ville de métropole très dense, avec de nombreux habitants très regroupés localement.
De façon générale, la diminution du nombre de cas Covid-19 est accompagnée d'une stabilisation qui devrait être confirmée dans les prochains jours, selon l'ARS.
Céline Fleuzin de Guyane la Première, le département qui a lancé une campagne massive de tests. Plus de 36 000 prélèvements réalisés depuis le début de l'épidémie pour une population d'environ 300 000 habitants. Les activistes martiniquais avaient lancé un appel sur les réseaux sociaux visant à faire disparaître les monuments hérités de la colonisation. Promesse tenue hier à Fort-de-France avec le déboulonnage de la statue de Joséphine de Beauharnais, fille d'un riche planteur de l'île, épouse de Napoléon. Mais aussi la destruction de la statue de Pierre Belin de Snambuc, le premier colonisateur français. Le militant associatif Fanny Sessouquet y était. Pour lui, il s'agit avant tout d'éveiller les consciences.
Tout ça, pour moi, ces deux statues sont des artefacts de l'époque de Césaire qu'il avait laissé justement pour ça. Parce que lui, à son époque, c'était l'époque de l'aliénation. Donc là, maintenant, c'est un débat qui est posé. Il ne faut pas le voir comme une action isolée. C'est un débat qui est posé. C'est une discussion qui a lieu entre les populations, les autorités, les jeunes. Et donc, moi, je pense que c'est un très bon climat. Maintenant, ce que j'attends et la phase sur laquelle j'aimerais surtout être associé, c'est sur le projet. Voilà, on manifeste, on débat, on machin. Mais sur le projet, concrètement, on fait quoi de ça? On construit comment? Avec qui? Quand? Quelle valeur? Quel socle? Comment on fait? Comment? Parce que d'une manière ou d'une autre, il faudra un système.
Des propos recueillis par Cécile Marais, une action condamnée par le préfet de Martinique. Ce n'est pas la première fois que des monuments sont déboulonnés dans le département. En mai dernier, les statues de Victor Schœlcher à Fort-de-France et à Schœlcher avaient été renversées. Depuis, plusieurs communes martiniquaises ont mis en place des commissions mémorielles dédiées à ces questions. C'est la fin de cette édition, on se retrouve demain.
À demain, merci Odane Agiali et bon après-midi à vous. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à 15h10 demain, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. D'ici là, portez-vous bien, à demain.
Au cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.